FFI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour, bienvenue. L'expédition Tara continue de nous émerveiller et de nous alerter sur la disparition des coraux dans nos océans. Depuis un an, la goélette scientifique a mis le cap sur le Pacifique, et ce jusqu'en 2018, pour mieux saisir la biodiversité des récifs coralliens menacés par le réchauffement climatique, l'acidification des océans et les activités humaines. Nous en parlerons à l'occasion de la sortie d'un documentaire sur cette nouvelle étape de l'aventure Tara, dont nous sommes partenaires, en deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, reportage. Le navire Tara a fait escale pendant 2 mois à la pointe sud-ouest du Japon, au cœur de l'archipel d'Okinawa. À son bord, des marins, une équipe de scientifiques, mais aussi un artiste photographe et plongeur, Nicolas Floch, qui s'est intéressé aux récifs artificiels. Reportage à bord de Noélie Pensio.
La goélette scientifique Tara se dresse devant l'île d'Okinawa, au Japon. Mais je ne me trouve pas à son bord, je suis dans une petite embarcation, un semi-rigide, en compagnie de Nicolas Floch, qui est photographe et plasticien. Nicolas est l'un des 8 artistes sélectionnés pour une résidence à bord de Tara. Et aujourd'hui, il cherche à photographier un récif artificiel dont on lui a parlé, qui serait situé au nord de l'île de Sesoko. Nicolas, vous êtes à bord de Tara depuis environ 1 mois, vous avez embarqué à Tokyo. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre travail ?
En fait, je travaille sur le milieu marin depuis longtemps, pas uniquement, mais beaucoup autour du milieu marin, et notamment autour de récifs artificiels qui sont des structures, des architectures immergées pour optimiser les écosystèmes, pour créer des habitats pour des poissons, des mollusques, différentes espèces marines. Et je travaille sur ces architectures, mais je travaille aussi sur Tara, sur les récifs coralliens, qui sont un autre type d'habitat. Là, ce sont des architectures animales, cette fois-ci, non pas construites par les hommes, mais par des animaux, qui sont les coraux. Les récifs artificiels sont destinés à restaurer des écosystèmes dégradés, où c'est lié aussi à l'alimentation, je dirais, durable, c'est-à-dire ce sont des récifs de production qui sont liés à la pêche.
Et finalement, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces architectures ?
D'abord, c'est une chose très très particulière. Il faut se dire que c'est une sorte de ruine inversée. C'est-à-dire qu'une ruine, c'est un bâtiment qui s'écroule, qui va être colonisé, envahi par la nature. Là, on a des bâtiments qui sont construits pour être colonisés par la nature. Donc on est dans un système complètement inversé. Cette transformation aussi de la structure m'intéresse. C'est-à-dire comment ces architectures, structures, deviennent des sortes de structures vivantes qui vont se transformer au fil du temps. On cherche l'endroit où sont positionnés les récifs artificiels. Ils doivent être par là, il y avait un petit plateau là, et c'est le fond retombe. Et ils sont sur, normalement, on avait vu 15-20 mètres, mais on
là, vraiment, il y a 18.
Il y a 18 mètres, ouais. Ouais, ça pourrait correspondre. On va voir déjà si on les voit avec le sondeur en passant sur le point. Normalement, on devrait voir un écho. Et on va regarder avec le masque autrement si l'eau est suffisamment transparente pour voir si on les voit de la surface.
Mozuku.
Alors, Samuel Audrin, le capitaine, et Sai, qui est le caméraman sous-marin, sont en train de goûter les algues que les pêcheurs viennent de nous offrir gentiment.
C'est un peu surprenant, mais c'est pas mauvais, c'est bon même.
Là, on vient de rencontrer 2 pêcheurs, en fait, qui sont sur un petit bateau blanc et qui ramassent, qui collectent des algues. À défaut de trouver un récif artificiel, vous allez plonger là. En quoi ça t'intéresse ?
Alors, ça m'intéresse parce que, je dirais, le travail sur les récifs artificiels, par extension, m'amène à travailler sur tout l'écosystème et sur les problématiques d'aquaculture. Donc, la culture des algues fait partie de ça. Et ça m'intéresse dans cette... je dirais, c'est une exploitation de la mer et une culture marine. Et ces cultures marines m'intéressent. Et graphiquement, c'est quelque chose qui est assez beau, ces filets tendus au fond.
Donc là, nos plongeurs se préparent. Ils vont aller voir ce qui se passe sous l'eau pour découvrir donc cette culture d'algues.
Bon ben, ça y est, Nicolas s'est sorti de l'eau, on arrive.
Nous sommes de retour sur Tara après cette plongée improvisée. Le programme a un peu changé ce matin, mais c'est...
Bah, c'est bien, c'est une chose imprévue et nouvelle. Et
c'était plutôt intéressant de voir ça ici. Donc bon, c'était pas ce qui était prévu, mais c'est pas grave.
Et là, le matériel est en train d'être hissé du semi-rigide jusque sur le bateau, la caméra sous-marine, les palmes. La prochaine plongée aura lieu cet après-midi. Voilà 3 jours que la goélette scientifique est au mouillage devant la petite île de Seisoko, dans l'archipel d'Okinawa. Et c'est ici que la mission japonaise va se terminer. L'an dernier, à Okinawa, les coraux ont subi un fort épisode de blanchissement et plus de 70% du récif corallien a été touché. Sylvain Agostini, vous êtes le coordinateur scientifique au Japon.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le processus de blanchissement ? Comment ça fonctionne ?
Le blanchissement, c'est dû beaucoup à l'augmentation de la température. Il peut y avoir d'autres facteurs qui jouent aussi, une forte lumière, parfois des pesticides, mais c'est surtout l'augmentation de la température. Et en fait, l'équilibre de symbiose entre les oxantelles et l'animal corail se rompt. Les oxantelles commencent à produire des matières toxiques et donc elles vont être expulsées ou digérées, ou en tout cas, le nombre de oxantelles à l'intérieur du corail diminue. Donc le corail perd sa couleur, parce que la couleur est due aux oxantelles, mais il perd surtout sa source de nutriments, qui sont les oxantelles, car elles font la photosynthèse, lui donnent des nutriments. Et donc pour le corail, c'est une énorme perte. Et si cette perte, donc si ce blanchissement continue sur, disons, un mois, il y a de fortes probabilités pour que le corail meure.
Oui, parce qu'en fait, le corail, c'est un super animal qui vit en symbiose avec une petite algue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Voilà, alors le corail, il vit en symbiose avec une algue qu'on appelle la zooxanthelle. C'est une algue unicellulaire, c'est-à-dire c'est une seule cellule d'environ 8 micromètres qui vit dans les cellules du corail. Cette algue, donc, elle fait la photosynthèse, comme elle utilise l'énergie solaire pour créer à partir du CO2 et d'autres nutriments de la matière organique, des sucres surtout, qu'elle va donner au corail, à l'animal. Cet échange, on appelle ça donc une symbiose. Car le corail aussi, en échange, donne du CO2 et des sels nutritifs aux oxantelles.
On pourrait dire que c'est un joli mariage, en fait.
Exactement, c'est un joli mariage, mais comme tout mariage, parfois les relations peuvent être tendues. Et si tu as une augmentation de la température, ces relations deviennent un peu chaotiques.
Et ça peut conduire au divorce.
Voilà, divorce entre l'animal et l'algue, et c'est ce qu'on appelle le blanchissement.
Et en fait, ce blanchissement, il arrive à partir de quelle température ?
Alors chaque population de corail, chaque espèce de corail a une température limite différente. Ça va dépendre de leur géographie, de leur espèce. Mais en général, tous les coraux vivent déjà à leur limite de température. Et donc une augmentation parfois de 1 degré, 1,5 degré, en été par exemple, un pic de, hop, un peu anormal de 1,5 degré, ça peut créer du blanchissement.
Ici, à Okinawa, la zone a connu un blanchissement assez spectaculaire de 70%.
Alors, ces 70%, c'était à Ishigaki, le plus gros récif corallien du Japon. Ici, à l'île de Seisoko, ça a été moins impacté, mais ça va dépendre du côté de l'île. Donc là, du côté où on est ancré, ici, on a un très beau récif. Et de l'autre côté, on voit bien que le corail a été très endommagé. Mais ça n'a pas été que cette année. C'est des événements successifs, quasiment tous les ans, de blanchissement qui s'accumulent aussi avec de la prédation par les anchatanstères, les drupellas, donc des coquillages qui mangent le corail, de la sédimentation, des touristes qui marchent sur le corail. C'est tous ces petits stress qui s'accumulent et qui empêchent, en fait, après chaque événement de blanchissement, au récif de se régénérer.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du bus de gestion de la ferme de bouturage. La NHK est heureuse de vous inviter à bord. Nous espérons que le voyage sera agréable et que vous ferez de bonnes informations. Bon voyage à tous.
Une fois n'est pas coutume, équipage et scientifiques ont quitté la goélette. Nous sommes 12 dans un minibus qui se dirige vers une ferme de bouturage de corail sur l'île d'Okinawa. Là-bas, nous sommes attendus par le fondateur des lieux, M. Koji Kinjo. Sylvain Agostini est en train de présenter tout l'équipage à M. Kinjo, qui dirige le lieu. Cette ferme a été construite en face de la mer. C'est assez joli, une plage de sable blanc et puis en terrasse au-dessus des bassins construits en dur dans un matériau qui ressemble un peu à du corail mais qui n'en est pas. Et c'est un lieu qui sert à accueillir le public. C'est un lieu d'éducation et de sensibilisation. Aujourd'hui, les taranautes ne sont pas les seuls visiteurs puisqu'il y a des écoliers qui sont là. Nous sommes devant les bassins de la ferme. Une discussion est en cours entre Sylvain Agostini, qui coordonne la mission scientifique au Japon, M. Kinjo, qui dirige le lieu, et Samuel Audrin, qui est capitaine du bateau.
Je viens de lui demander pourquoi il y avait tant de poissons que ça, parce qu'il y a quand même pas mal d'espèces de poissons. Il y a même des poissons qui mangent du corail, donc j'étais un peu surpris. Et je lui demandais pourquoi il y avait tant de poissons, c'était pour le contrôle des algues. Et oui, mais pas seulement des algues, mais aussi il y a des poissons qui mangent des anémones. Et même les poissons qui mangent du corail sont nécessaires pour maintenir l'équilibre.
Les poissons qui mangent le corail, ils mangent le corail malade ou justement ils s'attaquent au meilleur ?
Les poissons vont s'attaquer en premier aux coraux qui sont déjà affaiblis.
Ouais, c'est un peu comme les requins qui nettoient un petit peu les bancs de poissons quand il y a un poisson fatigué. Quoi. Et du coup, est-ce que ce qu'ils cultivent dans les bassins, est-ce qu'il arrive à recréer l'écosystème à l'extérieur ? Est-ce qu'il arrive à redévelopper des coraux dans la zone autour des bassins, mais dans le milieu naturel ?
Ouais. Mais je pense aussi que moi, c'est intéressant parce qu'il se sert de ce lieu pour la sensibilisation. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a...
Est-ce que le côté ferme, est-ce qu'il arrive à le remettre dans le milieu naturel ?
Restauration et...
Et ça, qu'est-ce qu'il en dit ?
100%
ici, vers ici, là où il a eu transplant, à cause du bleaching répétitif, en fait, à part là où ils transplantent, il n'y a plus de coraux. Et donc, ils ont transplanté 1 hectare, et c'est tous les coraux qui sont là, ils viennent d'ici, à un moment ou à un autre. Et il y a beaucoup de poissons qui s'accumulent dans cette zone-là aussi. Mais donc moi, j'ai parlé aussi de la sensibilisation, et il disait que oui, donc c'était utilisé aussi pour la sensibilisation. Et lui dit qu'il n'y a personne qui détruit l'environnement consciemment, je dirais. Et donc, il disait des exemples. Maintenant que tu vois que là, ils transplantent du corail, c'est vu à la télé et tout, les agriculteurs du coin, ils commencent à faire plus attention aussi. En fait, c'est ça, quoi. Les professionnels de la conservation ou de la recherche, il faut qu'ils fassent des activités, qu'ils fassent savoir, et ça va de lui-même se propager.
Sylvain Agostini, nous sommes de retour à bord de Tara. Nous avons visité la ferme de bouturage de corail. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une solution pour le futur ?
Alors déjà, j'ai trouvé que M. Kinjo aussi, donc, qui s'occupe de cette ferme, est très réaliste et il connaît les limites. du bouturage. Et j'étais bien d'accord avec lui. Son approche, c'est de faire quelque chose. Faire quelque chose au niveau local, au niveau individuel. Et c'est une très belle initiative. Maintenant, il en est conscient. Si l'environnement continue de se dégrader, même le bouturage ne va plus marcher. Et donc, ça peut être une solution pour restaurer du moment que l'environnement est quand même relativement sain. Et ce que j'ai trouvé peut-être de plus intéressant, c'est qu'il utilise surtout cette ferme pour l'éducation, pour montrer aux gens que le corail, c'est quelque chose de très joli et que c'est par les sentiments qu'il essaye de convaincre les gens d'aider pour la conservation du corail et toutes les générations. Pendant que l'on visitait la ferme, il y a eu, je ne sais pas, 50 enfants qui sont passés autour et qui regardaient le corail. Il a recréé des espèces de récifs dans ses aquariums complets, avec des poissons, beaucoup d'espèces de coraux, des étoiles de mer, il y avait de tout. Et là, c'est quelque chose que l'on ne peut malheureusement plus voir dans la nature. Et pour les enfants qui pensent que la mer, ça a toujours été comme ça, quand on leur montre, même en aquarium, c'est comme ça que c'était avant, ils prennent conscience de la dégradation qui a déjà été faite et que si ça continue, on va vraiment tout perdre. Et ce côté éducatif de son entreprise, de son initiative, je pense qu'elle est encore plus efficace que le bouturage réel qu'il le fait et je sais qu'il en est bien conscient.
Maginuk, vous êtes écologue au Cryob et vous avez embarqué pendant un mois sur ce lac japonais. Vous faisiez partie des visiteurs de la ferme ce matin. Qu'en avez-vous pensé ?
J'ai été très impressionnée en fait par le fait que cet homme a réussi vraiment à faire un récif corallien donc sur terre. Et le fait que les gens en fait peuvent voir ça. Donc il a apporté un morceau de récif sur terre et il a permis à ce que les enfants puissent voir ce que c'est un vrai récif.
Et est-ce que le bouturage de corail, c'est une solution pour le futur ?
C'est pas évident à répondre. Maintenant, cet homme, ça fait apparemment 18 ans qu'il ne prélève plus dans le milieu naturel, donc il ne prélève plus de coraux sauvages. Je pense qu'à petite échelle, il peut vraiment recréer un récif. Et surtout qu'on s'aperçoit plus facilement qu'est-ce qui va tuer ces transplants, en fait. Et lui, il est là tous les jours, il regarde ça tous les jours. Je dirais que c'est un peu comme un chercheur, hein, mais vraiment, je pense qu'il a acquis beaucoup de connaissances à travers ce processus. Maintenant, voilà, c'est louable à petite échelle, ça peut apporter beaucoup de connaissances scientifiques, beaucoup de sensibilisation au public. Maintenant, pour sauver des coraux à l'échelle globale, c'est sûr que c'est pas ce monsieur qui peut faire ça.
D'après vous, quelles sont les solutions ?
J'ai posé cette question à ce monsieur, qu'est-ce qui tuait les coraux quand il les transplantait sur le terrain ? Et il m'a dit que selon lui, c'était les engrais, l'utilisation d'engrais. Il n'a pas mentionné le changement climatique. Bon, je pense que c'est un phénomène plus insidieux que peut-être il a plus de mal à voir. Mais je pense que le fait qu'il ait répondu et dit les engrais, c'est une très bonne information. Donc une des solutions, c'est faire plus attention donc, à l'utilisation des engrais, à l'aménagement des sols pour permettre de garder une barrière verte près des côtes pour justement que ces engrais n'aillent pas directement à l'eau, de faire des stations d'épuration pour recycler nos déchets. Donc à un niveau local, il y a beaucoup de choses à faire. Après, l'autre solution, c'est bien sûr là de radicalement réduire nos émissions de CO2 et ça reste aussi un point très très important.
C'était un reportage de Noélie Pensio. Restez avec nous. Dans 3 minutes, nous continuerons d'évoquer cette expédition Tara à la découverte de nos coraux. À tout de suite.